CJLV 1570 Laval vous présente l'émission la plus complète du fabuleux monde de la lutte professionnelle. TOW Radio Show, une présentation de Pink Paradise et Monsieur Fun.
Bonsoir à tous. Ton micro est même pas ouvert. On dirait que toi et Jeff Kelly, vous vous tenez dans la même gang, hein. Vous attendez jamais.
Ben, c'est parce que Jeff Kelly, c'est mon meilleur ami. Fait que c'est correct.
Non, c'est pas correct. Faut que t'attendes. C'est impoli.
Quoi, qu'il est impoli d'avoir Kelly comme ami?
Non, pas Kelly comme ami. Je veux dire de parler avant que je dise bonjour à mes
auditeurs. Pourquoi? T'es qui, toi?
Moi, je m'appelle Patrice Maltais. Je suis l'animateur de cette émission 100% consacrée à la lutte professionnelle. La seule francophone en Amérique du Nord.
Ça a l'air qu'il y en a une en Chine.
En Chine, on ne sait pas, c'est tellement censuré que ça sort pas du pays.
En fait, t'en as dit, c'est tellement sensuel.
Surtout ta voix, Marc.
Oui, hein? C'est vrai que j'ai une voix. Moi aussi, des fois, je m'écoute parler puis j'ai des frissons.
Qu'est-ce qui se passe, Marc, aujourd'hui?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Pourquoi t'es grippé comme ça?
Ah, je te dirais la fatigue. Je te dirais de me promener en chandail, pas de manteau. Puis okay. Je te dirais l'arrivée de Disco La Prade à côté de moi, là, avec la... Quoi? C'est quoi cette chemise-là, Pat?
Mais c'est fun avec Pat, c'est qu'on peut voir qu'est-ce qu'il regarde sur son BlackBerry avec le reflet de ses lunettes.
C'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a, ma chemise? Je comprends pas.
T'arrives de où, habillé même, Pat? Tu savais qu'on faisait de la radio? Ouais.
J'arrive du bureau. Moi, j'ai une vraie job le jour, les boys, contrairement à ben du monde.
Ah ouais?
Et puis, j'ai pas le luxe de me promener le jour avec un jersey de hockey de Harley Davidson, je m'excuse.
Je sais pas, c'est ça. Je sais qu'est-ce qu'un Marc y a, moi, aujourd'hui.
C'est quoi? C'est ça que tu prépares depuis une semaine.
Ouais, mais là, j'ai manqué ma shot, t'étais pas bonne.
Elle était pas pire.
T'es pas pire, hein? T'as pire, j'en ai un autre ici. Hey you. Ah, bref.
Je la comprends, moi, fait qu'elle doit être pas si pire que ça. Every day I'm shuffling.
Bon, OK, mes coups sont prêts. Ben, si vous le saviez pas, vous êtes au TOW Radio Show, l'émission la plus interactive maintenant. On a un petit budget aujourd'hui. On a Patricia Molloy qui...
Et c'est son vrai nom.
C'est son vrai nom qui va s'occuper de la page TOW. Oui, tu peux approcher le micro.
Parce que vu qu'on est dans la période de Noël, il faut dire aux téléspectateurs.
Non, auditeurs à la
radio. C'est ça. Pour ça, je voulais te donner une chance de me reprendre. Il reste deux semaines. Hein, il reste cette semaine, la semaine prochaine. Après ça, on prend une pause de deux semaines pour Noël.
Deux semaines?
On finit la semaine prochaine le 20.
La 11e épisode, hein?
Ouais.
Ça a passé vite. Quelle aventure. Patricia, ce soir, tu vas interagir avec nos auditeurs via la page Facebook du TOW Radio Show.
T'as quoi à donner, Patricia?
Exactement. J'ai des DVD. Puis, on invite le monde à appeler pour qu'ils racontent les histoires, les meilleurs souvenirs de là. Fait que, je vous invite aussi à vous brancher sur la page de TOW Radio Show sur Facebook. Puis, on va interagir avec vous. Et c'est ça, on vous invite à téléphoner pour nous raconter vos histoires de lutte qui peuvent être très intéressantes pour les auditeurs.
J'ai trouvé que c'était un petit épice pour l'émission, tu sais, nous apporter nos meilleurs souvenirs. Toi, Marc, t'as 25 ans de carrière. Pat, lui, il a 10 ans de Marc dans le corps, donc c'est sûr et certain qu'il y a plusieurs choses à dire. Patricia qui a apporté son bout de table, puis Sylvain Grenier qui va apporter quelque chose également de son passage à la...
Probablement son dos, ça c'était abyss.
Non, j'ai demandé qu'il apporte soit sa ceinture ou son contrat. Hein? On verra, mais bref, on
devrait le voir. J'aurais pu t'amener mon contrat de la WCW, par exemple.
J'aurais aimé ça voir ça. Ouais,
mais tu m'as parlé de souvenirs de la WWF. Mm. Puis ce qui est vraiment spécial de voir arriver Pat Laprade, c'est avec le livre de l'histoire de la lutte par Jacques Rougeau.
Et puis, depuis tantôt, je vois Patrick qui a la boucane qui culmine et puis qui sort de ses oreilles. Il a la face aussi rouge que le livre.
J'ai la face aussi rouge que ma chemise également. Le livre de Jacques Rougeau qui est sorti le 1er décembre dernier. qui devait en fait qui est sorti sur le web le 1er décembre dernier, qui devait sortir en librairie la semaine dernière, qui est finalement sorti aujourd'hui. Évidemment, je me le suis procuré au coût de 35 $. Et j'ai sauvé 15 $ de shipping en ne le commandant pas par l'Internet. Écoute, d'abord, OK, je vais juste expliquer que je m'attendais pas à ce que le livre soit écrit pour moi ou, par exemple, Bertrand Hébert. OK, on a écrit un livre sur l'histoire de la lutte au Québec. Je te dirais que je m'attendais pas d'apprendre quelque chose dans ce livre-là, puis je pense que, bon, c'est normal.
Comment s'appelle le livre, tout d'abord?
L'histoire de la lutte par Jacques Rougeau, père et fils. Les secrets les mieux gardés, enfin révélés. C'est accrocheur.
Ouais.
Je dois avouer que c'est accrocheur. Il a réussi ça.
OK.
OK. Mais si je m'attendais pas à ce que ça s'adresse à moi, je m'attendais, par contre, que ça s'adresse à un certain public. Et là, je trouve que ça s'adresse pas à beaucoup de gens.
C'est ça, Patrick. Quand tu dis à toi, t'es qui, toi? Quand ça s'adresse à toi, élabore un petit peu
plus. Un gars qui connaît plusieurs secrets.
Pour moi, le livre s'adressait pas à moi à la base, OK? Parce que, écoute, moi puis Bertrand Hébert, comme je dis, on a écrit 200 000 mots sur l'histoire de la lutte au Québec. Okay. Je m'attendais pas d'apprendre absolument aucune information dans ce livre-là. Okay. OK. Ça, c'est avec la prémisse avec laquelle j'ai ouvert le livre.
Donc, c'est pas la biographie à Jacques Rougeau?
Du tout.
Ouh, okay.
Oh, ben, du tout. Non, du tout. Je dois le dire, là, il parle de sa carrière, évidemment. Mais ce qu'il parle aussi, c'est un peu, comment je pourrais vous expliquer ça, on dirait la lutte pour les nuls. Et c'est pas péjoratif, mais dans le sens que Jacques explique chaque détail. Jacques explique vraiment chacun des il dit c'est les secrets, là, mm-hmm. Mais en fait, là, il va aller jusqu'à expliquer qu'est-ce qui fait un bon lutteur babyface, qu'est-ce que c'est la chaleur pour un lutteur qui est vilain. Il fait une page sur les robes de chambre.
Okay.
Les robes de chambre dans la lutte. La construction d'un méchant. Comment monter un bon match de lutte. Les différents styles de lutteurs. Le lourdeau, le lutteur de base, l'acrobate, le charismatique. Les hauts et les bas que la lutte a eu. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il dit que de 72 à 75, la lutte était dans un de ses... Il appelle ça très mauvais au niveau de la popularité.
Ouais, je vois l'échelle, là.
Exactement. Et pourtant, en 72, son oncle mettait 26 000 personnes au parc Jarry. Puis l'année d'après, les Vachons en mettaient 29 000. C'est les deux plus grosses assistances jamais enregistrées à ce jour au Québec. Et pour lui, c'était très mauvais au niveau popularité. Il dit aussi, à un moment donné, bon, le sang était-il du ketchup? Les blessures dans l'arène, est-ce qu'il y avait vraiment des vraies blessures? On voit ici une grosse photo d'une blade. OK, d'une lame de rasoir qui, bon, sert à faire saigner justement le lutteur. Et Jacques, en arrière, dit le livre le plus révélateur et le plus intime jamais écrit sur la lutte. En français, peut-être. Parce que c'est vrai qu'en français, il n'y a jamais eu vraiment de livre qui expliquait certaines choses comme lui l'explique. Mais aux États-Unis, je dirais, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il y a des livres là-dessus. L'Internet a beaucoup, beaucoup exposé aussi la business, l'industrie. Vous voyez ici les robes de chambre. On dit aussi... il parle aussi à un moment donné, bon, les femmes dans la lutte, et il explique que son père était contre ça. C'est vraiment là les ceintures de championnat. Il y a des aberrations là-dedans là qui sont assez intenses.
Ok, c'est bon pour tout de suite. Prends-moi le livre, je vais voir deux secondes la couverture parce que je vois Hulk Hogan.
Artistiquement, puis... là, il est très beau, Marc. Ouais. La première impression que t'as eue quand tu l'as vu tantôt, il est beau le livre. C'est un hardcover, c'est une couverture dure, 8.5 x 11. Tout en couleur à l'intérieur et à l'extérieur. Il est vraiment beau. Il attire l'œil. Ça, il a réussi ça à merveille. L'intérieur, par contre, ouf. Puis c'est pas juste moi là qui est un connaisseur, peut-être plus que la normale, qui peut trouver ça. 50% du livre, c'est vraiment, il explique les prises. En dernier, vous allez voir, là, il y a son gars avec un autre lutteur qui font des prises et là, il nomme le nom de la prise en dessous. Je savais pas que le pin est une prise. ça a l'air que piner son adversaire, c'est une prise.
Ah.
J'étais pas au courant. J'ai appris quelque chose.
Ah, ben, c'est bon. Donc, c'est pas, c'est comme une encyclopédie ou quoi?
Ben oui, ben, je, vraiment,
comment
je pense.
Comment devenir lutteur 101?
La lutte pour les nuls. C'est pas péjoratif. Il y a quelque chose pour les nuls. Il y en a des dizaines et des dizaines de livres là-dessus, mais c'est vraiment basé, on dirait, sur le même système. Et à travers ça, il raconte certaines histoires de lui, des histoires de son père. Écoute, puis comme je disais tantôt, il y a vraiment des erreurs, là, mais on dit que Little Beaver est décédé en 2003. Little Beaver est décédé en 1995. Je veux dire, il aurait marqué 96 à la limite que j'aurais rien dit.
OK, mais, OK. Là, tu rentres un petit peu trop dans les détails. OK, mais là, tu l'as lu au complet
temps,
déjà, là?
J'en ai lu la moitié et j'ai feuilleté l'autre assez intense.
On va y revenir. On a deux heures de show, donc on ne voudra pas les punch tout de suite. Marc...
parlant de punch...
Oui.
On dirait toute la gang, on va saluer Christiane. Parce que j'ai bien aimé ce que Bertrand Hébert a écrit, là.
Bertrand Hébert sera notre invité, d'ailleurs, vers 22h ce soir. Nous sommes finalement sur la map de la lutte au Québec. Christiane est une fidèle auditrice. Elle écoute religieusement de TOW Radio Show.
Ouais, Christiane qui est en couple avec Saint-Jacques, elle?
Je pense qu'ils ont divorcé.
Ah, okay.
Et puis qu'elle devra donner 1 million à Saint-Jacques.
Oh, bon.
Aïe, 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 aïe. On a eu droit à un événement payant de la TNA, Marc, ce week-end.
Oui.
On a eu... C'était quoi le nom de l'événement?
T'es un petit peu... parce que tu fais exprès, ben j'ai oublié mes...
Marc a oublié ses lunettes, mesdames, messieurs. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que t'es sûr que t'es dans la bonne station de radio? Monsieur Magou.
Monsieur Magou? Ah oui,
oui,
c'est vrai.
La mi-up dans... Walt Disney, il y a des Tiny Toons. OK, c'était Turning Point.
T'as pas Turning Point?
T'as pas Turning Point?
Non.
Bon, on a l'air de des beaux
non.
pros.
Non.
OK, donc écoutez, mesdames et messieurs, RDS, la lutte Impact...
Je pense que le prochain en janvier, c'est-tu Genesis? Même pas sûr.
Bref, on a les résultats, mais pas du bon gala. On en parlera tout à l'heure.
Ben, moi, j'ai les résultats.
Ouais, mais parce que t'as pas le nom du gala, ça paraît bien.
Ben, Patricia va nous le donner, là. C'est un blanc. Dans un challenge match, Rob Van Dam a défait à Christopher Daniels. Dans le TV Championship, Robbie E a défait Eric Young. Tag Team Championship, Crimson et Matt Morgan ont défait le Pap et Devon. Et Austin Aries a gardé son titre de la Division X face à Kid Cash. Il y a Gail Kim qui a battu Mickey James. James Storm a défait Kurt Angle. Et dans un Steel Cage match, Jeff Hardy a défait Jeff Jarrett. Et finalement, dans le 30 minutes Iron Man que j'ai vraiment hâte de voir entre AJ Styles et Bobby Roode, ça finit 3-3. Donc, Bobby Roode a gardé son titre.
La foule qui
c'était
criait...
C'était quoi le nom?
Le nom, c'est Final Resolution.
C'est ça. C'est ça.
J'avais les résultats aussi, mais j'avais pas de titre.
La foule qui criait à quoi?
Demandait encore une minute. One more minute.
Ah ouais?
Et puis, la pay-per-view s'est terminée sur ça.
Ouais. More minutes, je crois qu'il criait.
Parlant de Mickey James. Wow. J'ai eu la chance... Et j'en parle, puis j'ai la chair de poule.
La chair de poule?
Ouais, d'avoir Thomas Dubois en lutin de Noël à un de mes événements.
Le pire là-dedans, c'est que...
Il faisait peur aux enfants.
Avec sa perruque.
Puis ses lunettes d'Elvis.
Ses lunettes d'Elvis. Et puis je pense qu'il a étiré ton costume de lutin parce que ça y faisait pas en bout de ligne.
Ah,
donc, il a brisé un de tes...
Ah ouais, c'est vrai? Je suis content que tu me le dises.
C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Check même avec son chèque passe, il va avoir une petite surprise.
Hey, en parlant de Mickey James, on a un petit cadeau.
Ouais.
Hey gang, this is Mickey James of TNA Impact Wrestling. Get all of the latest pro wrestling scoop by listening to TOW Radio every Tuesday night at 9 p.m. on 1570 AM.
Ouais, elle est gentille, hein?
Elle parle anglais.
Elle parle en anglais. Écoute, j'ai jamais entendu ça, une fille pas parler français comme ça. Pat, je vais te parler tout de suite du Slammy Award qui avait lieu hier, mais nous allons devoir nous arrêter pour une première pause publicitaire. Vous êtes au TOW Radio Show, et puis ce soir, nous interagissons avec vous via notre page Facebook. Quels sont vos plus beaux souvenirs de la lutte?
J'ai emmené la moitié de mon garde-robe.
Jouer ça, t'as une panoplie. je pense que Pat, son plus beau souvenir, c'est son nouveau livre de Jacques Rougeau. Patricia, elle a apporté des trucs. Même moi, j'ai apporté des trucs. Dans un instant, vous allez écouter ce qu'on a à dire là-dessus. Donc, on revient dans deux petites minutes.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show, en compagnie de Patrice Maltais et Marc Blondin. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et de l'extérieur sans frais, 1-866-895-3142.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Ici DJ Mike Charlebois. Je vous invite à ma soirée karaoké du dimanche soir à la brasserie 4040, coin Jean Talon et Pinneuf à Montréal. La soirée débute à 22h et à minuit, nous diffusons à la radio un concept unique en Amérique du Nord. Venez chanter à la radio karaoké tous les dimanches. Pour plus de détails, 514-926-7500.
Bonjour les amis, je suis Fuego et vous écoutez le TOW Radio Show. Je voudrais également vous souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année 2012, ou comme on dit par chez nous, Feliz Navidad et Prospero Año Nuevo. Arriba!
Hey, tu l'as dit sans faux au dernier show, man.
J'étais pas là. Coco, beware!
Yes, sir.
Je m'en souviens, là, sa voix, là. Bird, bird, bird.
C'était eux, hein, qui chantaient eux-mêmes leur propre chanson, ou quoi?
Parce que lui, c'est sa voix, c'est sûr, là, je le reconnais, là.
Il y en avait plusieurs que c'était leur voix. L'album Pile Driver de la WWF avait sorti. Il y en avait beaucoup de c'était eux-mêmes qui
chantaient. C'est de ça que j'ai parlé l'autre fois, Pat. Tu sais, là, on voyait Mean Gene là-dedans. Ouais. Pis, ah, c'était bon.
Ouais, ça. On a vu la couverture de l'album.
La, 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 la,
on dirait que c'est la seule chanson qui t'est restée en tête.
C'est les paroles que je comprenais.
Sherry Martel, c'est elle qui chantait la toune de Shawn Michaels quand Shawn Michaels a tourné heel. Puis ensuite, c'est Michaels qui l'a rechanté lui-même quand Sherry quand ils ont lâché l'angle entre lui puis Sherry. Donc, oui, il y en avait plusieurs dans ce temps-là. Les Rougeaux chantaient All American Boys. C'était eux autres mêmes qui chantaient.
Ah oui? Je me souvenais pas de ça.
C'était une musique composée par Jimmy Hart. C'est Jimmy Hart qui avait composé.
C'est ça qu'on parlait, je pense, quand t'étais pas là, suite à l'entrevue que j'ai faite avec Jimmy. Il aime tellement ça, la musique, c'est débile.
Non, mais il était disjockey, Jimmy, avant même de s'impliquer dans la lutte, dans la région de Memphis, là, je me trompe pas. Donc, oui, la musique a toujours été très importante. C'est pas pour rien qu'il y avait des notes de musique là, de dessiner sur ses multiples vestons coloris.
C'est soit Memphis ou soit Longueuil, là, si il va avec sa coupe de cheveux.
Jimmy Hart n'était pas un compositeur également pour la WCW?
Peut-être.
Non, j'ai toujours pensé.
Mais lui, il a toujours été un compositeur. Fait que ce soit n'importe où il est, c'est sûr qu'il amène son grain de sel ou sa note de musique.
Quand il avait fait la rivalité entre les rappers puis les gars de country dans les mauvaises années de la WCW, Jimmy Hart avait été impliqué là-dedans au niveau de la composition des chansons. Là, si je me trompe.
Patricia, qu'est-ce qui se passe sur notre page TOW Lutte?
Là, j'ai Bertrand Hébert. Mm-hmm. Est-ce que tu m'entends bien?
Oui, on t'entend très bien.
Okay. Parce que j'ai pas de...
Reste appuyé, mets-toi à l'aise.
J'ai Bertrand Hébert.
Là, mets-toi à l'aise, relax.
À qui on va parler tantôt, c'est ça? C'est avec Bertrand. C'est il nous dit « Bucket Gabe Sapolsky. Super Smash Brothers confirmed for Evolve 10 le 14 janvier in Philly. » Puis les tickets sont en vente au DGUSA.
OK, Pascal Charan, qu'est-ce qu'il dit?
Moi, mon meilleur souvenir de lutte, c'est d'avoir vu les Road Warriors live en 1980-quelques, après avoir lu et vu leurs exploits dans les magazines américains que j'achetais. J'ai été flabbergasté de voir pour vrai ces gars-là.
Mm. Mm. Okay. T'as une photo, Marc?
J'ai un flash qui vient de venir.
Vas-y.
J'ai une amie, Martine. Mm-hmm. Tu quoi?
Non. Non.
Et puis, je m'arrange avec Luke. C'est quoi? C'est quoi l'autre, Luke? Et puis...
Tu parles de qui, là?
Les Bushwhackers.
Les Bushwhackers, Luke et Butch.
Butch et Luke. Butch, je m'arrange avec eux autres, puis c'est une fille qui paraissait très bien, qui paraît encore très bien. Et puis, elle était dans la première rangée en avant, tu sais, puis je dis au gars, tu sais, dans ce temps-là, il lichait le monde, sortait la langue, puis... Mm-hmm. Fait que là, je dis, garde, un là, puis vous la pognez, puis tu te le quittes, tu sais. Mais on dirait qu'elle s'en était doutée. C'est au forum.
OK.
Puis c'est moi qui ai resté, puis c'est fait licher.
Oh. Ouais. Pauvre Marf, c'est ça tes meilleurs souvenirs?
Je me suis pas lavé le visage depuis ce temps-là. Poteau sort de sa corps.
Sort de sa corps. Non, c'est les dents qui se lavent pas.
On a ça en commun, mon Marc, se faire licher par un bushwhacker.
Pat, j'ai pensé à toi, pas hier, parce que j'ai écouté Raw aujourd'hui. Je remercie Jason Descoteaux de mettre illégalement sur Internet Raw chaque semaine. Je te remercie beaucoup. C'était les Slammy Awards hier, et puis en commençant l'événement, j'ai été surpris que ça soit pas Monday Night Raw qui était pour une énième semaine consécutive, mais plutôt qui flashait sur les Slammy Awards. Fait que je me suis dit, ah, ils viennent de s'auto-éliminer en étant l'émission la plus... l'émission qui joue régulièrement, la plus souvent depuis 16 ans, jusqu'à temps que je vois le mot Raw. Ça a commencé avec Booker T et puis Hornswoggle, ça?
Hornswoggle,
oui. Et puis encore une fois, tes deux meilleurs chums, Jim Ross et Michael Cole, qui ont pris une éternité avant de terminer leur segment. Qu'est-ce que t'as pensé du premier segment?
J'espère que Vince en a eu pour son argent puis qu'il s'est bien bidonné en arrière au Gorilla Position. Parce que vous devez comprendre là, que Vince McMahon fait mal paraître Jim Ross parce qu'il trouve ça drôle. Dans le temps, il y avait Howard Finkel qui faisait la même chose, que Vince trouvait tellement ça drôle quand Finkel paraissait un peu niaiseux. Et là, il fait la même chose avec Jim Ross. Alors que le faire gagner un Slammy après justement avoir... danser et avoir paru vraiment ridicule, bon, même s'il était pas si pire dans sa danse, mm-hmm. c'est pas pour ça qu'il est payé, pis c'est pas là-dedans qu'il est bon. Alors là, ensuite, de le faire retourner dans le ring, dans un autre angle avec Michael Cole, écoute, j'espère réellement que lui, il a eu du fun, parce que moi j'en ai pas eu en regardant ça. Jim Ross avait déjà teasé sur son Twitter que il dit je vais être là ce soir au Slammy, mais manquez pas le début du show parce que vous allez me manquer. Donc je me doutais bien que c'est lui qui était pour remporter le comment est-ce qu'il appelait ça, le Tell Me I Didn't Just See That Award. Alors, c'était vraiment du remplissage. Bon, les Slammy Awards, à mon avis, c'est du remplissage, mais ce segment-là,
il y a tellement
encore
quoi
plus
à faire avec ça, hein? Oui. Moi, je trouve qu'il y a une bonne idée à faire avec ça.
Avec des trophées?
Avec Slammy Awards.
Ça l'avait porté fruit à Owen Hart
dans les
années 90, justement, quand, après ça, là, il en avait profité pour dire à tout le monde qu'il était un two-time Slammy Award, et ça l'avait beaucoup aidé dans sa dans son heel turn, ou puis bon, dans c'est son vrai personnage et tout ça. Mais là, on donne des prix pour écoutez, on a donné le prix de, puis tu vas en revenir, j'imagine, de Trending Star of the Year.
Oui, Zack Ryder, parce que c'est la personne qui parle le plus sur Twitter. Twitter que la WWE s'amuse vraiment à promouvoir depuis un certain temps.
On l'a nommé Trending Star of the Year. Par contre, on a fait tout un plat en disant que The Rock et John Cena étaient les deux personnes qui avaient le plus de followers sur Twitter. Mais là, on le donne à Zack Ryder, qui, en bout de ligne, c'est lui qui a fait sa propre chance. Parce que rappelez-vous que la WWE ne voulait vraiment pas embarquer dans ses vidéos et dans tout le personnage Internet qui s'était donné. Et bon, en tout cas.
Ouais, bon, ensuite de ça, on a eu le Holy Censuré Moment of the Year, ce qui veut dire en français le moment tabarnouche de jus de poteau.
Comme ils diraient à Shikara, qui ont pas le droit de sacrer, c'est une promotion américaine, ils disent Holy Poop.
OK, ben ça a la même affaire. Bref, Big Show et Mark Henry qui font écraser le ring Vengeance. Le Pipe Bomb of the Year, qu'on pourrait dire l'effet surprise de l'année. Mm-hmm. CM Punk qui remporte le championnat. Le seul prix que j'ai pas été d'accord, Devilicious Moment of the Year, qu'on pourrait qualifier de moment féminin diva de l'année. Kelly Kelly qui remporte le titre de diva. Quand j'ai vu Karma, je crois que c'est elle qui aurait dû gagner.
Je pense que si elle avait encore été dans la promo avec la WWE, elle l'aurait peut-être gagné, sauf qu'évidemment, on l'a vu pendant 3-4 semaines, elle est tombée enceinte par la suite, c'est même mariée ou elle a été fiancée.
Ouais, non, elles sont fiancées, on a vu sa bague sur TMZ. Lister of the Year, Snooki, qu'on connaît sur Jersey Shore, qui a quand même bien paru à WrestleMania, je dirais, avec son flip-flap, flip-flap-flop qu'elle a fait. J'ai pas encore vu une femme fatale faire ça. D'ailleurs, donc c'était super intéressant. En conclusion d'émission, on a eu droit à l'apparition de Kane qui est apparu avec un masque, chose qu'on n'a pas vue depuis quoi, 4-5 ans, monsieur l'historien?
Oh, ça fait plusieurs années, même je dirais plus que ça, que Kane se dévoile sans masque. Et on parle de souvenirs, c'est un peu le thème de l'émission, je me rappellerai que la première apparition de Kane dans un pay-per-view, dans un match, si je me trompe pas, entre l'Undertaker et Steve Austin, et là je mets mes connaissances à l'épreuve, mais Steve Austin était là, non?
C'était pas ça, c'était le match de cage, le premier Hell in the Cell qui opposait Shawn Michaels à Undertaker. Kane est arrivé et il a arraché la porte.
Oui,
pour aller prendre de sur quoi.
Bref, je me souviens que dans ce moment-là, je louais pas les pay-per-view, hein, j'étais plus jeune et pauvre, et il y avait chez nous on avait le câble, et je sais pas si vous vous rappelez, avant la télé, avant la télé numérique, on pouvait genre continuer les postes qui étaient tout embrouillés, enneigés, et j'avais le feed, non, j'ai jamais fait ça, et j'avais le feed du pay-per-view justement, et je me rappelle encore d'entendre la voix dire oh my god, it's Kane, it's Kane,
it's gonna be Kane,
c'est un des moments, je me souviens bien, de la WWF à cette époque-là.
Bref, Kane qui revient pour le... je dirais pas l'unique et seule raison, c'est que ça tombe bien parce que Sin Cara est blessé. La WWE, Marc, comme je t'ai parlé avant le début d'émission, veulent établir un record Guinness pour la plus grosse foule qui vont porter un masque en même temps au même endroit lors du prochain WrestleMania qui aura lieu à Miami. Le record est tenu par je sais pas par qui qu'il tient vraiment là, ça s'est passé
un match de balle, c'est bizarre hein.
Ben c'est parce qu'en Californie la notion de lucha est encore très très forte.
Elle est très primitive.
Ouais. et justement l'été dernier au Angel Stadium pour un match des Los Angeles of Anaheim, ils ont établi le record avec
25 000 personnes
qui simultanément ont porté un masque de lucha. Alors la WWE depuis ce moment-là et sachant l'arrivée de Sin Cara a l'idée, ça fait plus d'un an là, depuis l'été qu'il en parle, et à WrestleMania il y avait l'idée là, justement de battre ce record-là.
25 000 fans pendant 10 minutes ont porté un masque, c'était le 10 mai 2011. On parle de WrestleMania dans 3 mois et demi exactement, nous allons avoir droit à ce rendez-vous annuel, cette traditionnelle annuelle, déjà 28 WrestleMania. Marc, est-ce que t'as déjà fait partie d'un WrestleMania en tant qu'employé de la WWF?
Non.
Jamais?
Non. J'étais là pendant, je pense, WrestleMania 3, 4, 5, là, mais j'ai pas assisté.
T'as pas assisté?
Non.
OK. 28e déjà WrestleMania, on aura droit à The Rock contre John Cena. Heureusement, personne n'est blessé encore, donc on aura droit à ça. Grosse nouvelle cette semaine, ça a apparu cette fin de semaine. On aurait le retour de Chris Jericho au prochain Royal Rumble, et puis ça nous amènerait à un match entre CM Punk, et puis un match entre Triple H et Undertaker, qui s'appellerait Triple H versus Undertaker 3, qui serait pour la 20e victoire consécutive du Undertaker. L'édition de SmackDown de la semaine dernière a été très forte dans les codes d'écoute. On parle de 2.24, ce qui fait le chiffre de 3 238 000. C'est un gros 0.24 de plus que l'édition qui était en direct de SmackDown la semaine d'avant. Ensuite de ça, je sais pas si ça tente d'avoir des sensations fortes lorsque tu auras un prochain voyage, Pape, à Los Angeles. Est-ce que tu aimes les manèges?
Moyen, je te dirais. J'aime beaucoup Disney parce que ça fait moins montagne russe et plus simulation.
Ben moi, je t'invite à essayer la Chine, plus particulièrement China, qui nous a produit un film pour adultes dernièrement. Et puis, qui a vu que China n'a pas de contrat nulle part, elle fait partie maintenant d'une agence d'escorte. J'ai trouvé bien bonne, ça s'appelle My Porn Star Provider. Si ça tente de te taper les services de China, c'est 3 500 $ de l'heure. 1 500 $ pour une heure additionnelle, 10 000 $ pour 12 heures ou 20 000 $ pour 2 jours.
Tant qu'à prendre quelqu'un de Triple H a déjà fourniqué avec, je vais prendre Stéphanie McMahon avant China, si vous le voulez bien.
Alors voilà pour les grosses nouvelles. On s'arrête pour une énième pause publicitaire. Vous écoutez le TOW Radio Show sur les ondes du 1570 AM. Également le 1570.ca. On vous invite également à interagir avec nous via notre page Facebook. Au retour, nul autre que Marc Blondin qui va nous parler de ses tout premiers souvenirs de son passage. Ben, de son passage, non. Dis rien, Marc. On revient dans un instant.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show en compagnie de Patrice Maltais et Marc Blondin. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et de l'extérieur sans frais, 1-866-895-3142.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Ici DJ Mike Charlebois. Je vous invite à ma soirée karaoké du dimanche soir à la brasserie 4040, coin Jean Talon et Pinneuf à Montréal. La soirée débute à 22h et à minuit, nous diffusons à la radio un concept unique en Amérique du Nord. Venez chanter à la radio karaoké tous les dimanches. Pour plus de détails, 514-926-7500.
Voici un message amusant. Le monde de Monsieur Fun est une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'animation depuis 1984. Vous êtes à la recherche de services pour vos événements des fêtes de Noël? Que ce soit un DJ, un animateur, soirée thématique, fête d'enfants ou autre, le monde de Monsieur Fun saura vous servir. Il reste encore quelques disponibilités pour la période de Noël, mais faites vite. 1-800-66-LE-FUN, 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun au mfun.com.
Hey, c'est Lucky Sabiti. Vous écoutez le TOW Radio Show et je vous souhaite un joyeux temps des fêtes.
Bonne petite tonne, ça.
Calamity.
Non, c'est pas Coco Beware, c'est Calamity. La prochaine top female au Québec. Si elle n'est pas déjà top, bref. Patricia, qu'est-ce qui se passe sur notre page TOW? On a beaucoup de réponses hein, sur
ouais,
notre dernier sujet.
On a des réponses en rapport à Kane.
J'ai pas c'est ça le coup de baisser le micro.
Okay,
le monde de Québec.
Ouais.
Mais vous m'entendez?
Oui.
Est-ce que je m'entends?
Très bien. C'est pas grave, nous on t'entend.
Ok. Donc on a plusieurs.
Bouge-toi l'oreille au pire.
On a plusieurs réponses en rapport à ce que vous parliez tantôt là sur Kane.
Mm-hmm.
Donc juste pour un petit peu de précision, le premier combat de Kane, c'était au Survivor Series 97, selon François Nationaliste. Donc, son premier combat.
Son premier combat, son oui, premier effectivement. Combat. On parlait tantôt de sa première apparition qui était à Bad Blood.
Le fameux screw job à Montréal au Survivor Series. Ensuite oui. de ça, dans les souvenirs, qu'est-ce qu'on a? Simon Lefranc, qu'est-ce qu'il dit, lui?
Simon Lefranc, ben, son meilleur souvenir de lutte, c'est TOW5 avec Samoa Joe, Viscera, Hernandez. J'y avais traziner ma grand-mère qui a eu beaucoup de plaisir finalement.
Traîner. C'est l'accent, c'est la variante régionale.
C'est marqué
traziner. Continuez à nous écrire, c'est super le fun. Les gens qui veulent pas nous appeler de toute façon, ben interagissez via.
Là, toi, tu sors ton billet. C'est cute ça.
Ok, je vais en parler. J'ai demandé à mes collaborateurs aujourd'hui d'apporter un souvenir qui leur sont très chers.
T'avais dit un?
Ben toi, je vois que t'as vidé ton garage ou ton bureau. Moi, c'est mon billet de No Way Out qui a eu lieu au Centre Bell le 23 février 2003 à 19h45. Pourquoi que je dis ça, c'est que avant que je fasse une carrière en radio, je faisais le transport de personnel de club de Chibougamau à Montréal, et puis je savais que ce dimanche-là, il y avait un pay-per-view, un événement à la carte de la WWE. J'étais un petit peu au courant de la carte, mais pas plus que ça. Je savais que Hulk Hogan allait affronter The Rock. Et puis je me suis tapé 15 heures de route dans une tempête de neige. Je suis arrivé à 18 heures pile à Montréal. J'étais parti à 3 heures du matin de Chibougamau. Personne ne voulait que je parte, mais moi dans ma tête, c'était go, on y va. J'étais arrivé à 18 heures brûlé, fatigué. J'arrive dans la billetterie du Centre Bell. Je pars à courir, pis là, il y a un gardien de sécurité qui me dit « Hey, toi, va t'en aller! » Je fais « Hey, les nerfs! » Il dit « Hey, tu veux-tu que je te sorte? » « Non, 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 sors-moi pas! » Je m'excuse, donc j'ai pris mon rang, et puis le monde passait, pis là, je me disais « Il y aura plus de billets, il y aura plus de billets. » Donc, j'arrive au guichet, je dis à la demoiselle, j'ai dit « Je vais avoir ton billet le plus cher. » Elle dit « Pas de problème, 400$, tu pars avec la chaise. » Là, je fais « T'as-tu un billet un petit peu moins cher? »
Le deuxième plus cher.
Fait que c'était ça, c'était deuxième moins cher, donc 104$ pile. J'étais dans les double A rouges. Mais pour moi, une apparition au Centre Bell comme ça, c'était tout le temps en haut. Donc, quand je descendais les marches, plus je descendais, plus je voyais les lettres arriver. Je disais « Oh yeah! Oh yeah! Wouhou! » Juste avant le parterre. Donc, ça a été un événement incroyable. Et puis, par conséquent, c'était justement les débuts de Sylvain Grenier qui personnifiait l'arbitre dans le match de Rock contre Hogan No. 2. Donc c'était vraiment un beau souvenir que je garde en mémoire. Puis j'ai gardé ce billet qui a pratiquement 10 ans, très bonne condition, que je vais vendre sur eBay quand je vais être cassé. Puis je vais sûrement me payer des dents avec ça.
D'après moi, je le vendrai à ta place tout de suite.
Ouais, hein? OK. Marc, t'as quand même une belle grosse carrière du côté de la WWF. C'est tout le temps plaisant. Là, je vois que t'as apporté une panoplie de photos. On a même une botte de lutteur sur le comptoir.
Écoute, la botte, là, la botte de Rick Martel, à qui j'ai parlé aujourd'hui, hein?
À Rick Martel.
J'ai communiqué avec Rick pour faire une entrevue que je voulais diffuser ce soir. On a jasé, puis dit, écoute, on s'est donné rendez-vous lundi matin, 10h, pour faire l'entrevue. Et 5 minutes après, Rick m'a rappelé, puis m'a dit, Marc, ça me tente pas.
Ça te tente
pas. Il est débranché, puis il est dans l'immobilier, puis ça ne tente pas de rebrancher, puis faut respecter ça. Mais quand il m'avait donné la botte, puis il me l'a autographié, puis c'est la botte de The Model Rick Martel, c'est bien le fun. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a une botte de lutteur. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il m'en a donné qu'une pour être sûr que je porte pas.
OK, ça c'est ton premier souvenir. C'est pas ton même pied. T'es où, Marc? OK, t'es là, non, je te voyais pas.
L'autre qui est le fun, c'est que dans le temps, je sais que Pat, il a bien aimé les expos aussi, hein, Pat, me semble.
Ouais.
Puis Tim Raines, j'ai une photo avec Tim Raines qui venait régulièrement au forum voir la WWF et pour moi Tim Raines écoute, c'était tout un joueur de balle, là, c'était toute une vedette, j'adorais Tim Raines. Alors ça c'est un beau petit souvenir que j'ai aussi. Dans quelque chose qui est assez unique, c'est mon t-shirt parce que c'est moi qui l'avais fait faire.
Okay.
J'étais en charge de la promotion aussi pour le Québec et il y avait eu un combat de championnat au Forum de Montréal dimanche le 28 août. Mais là, quelle date? Quelle année, je ne sais pas, Pat, pour championnat, et c'était marqué, j'avais fait faire un chandail, c'était plate qu'on ne soit pas à télé.
On prend des photos.
Dino Bravo, champion, WWF, puis j'avais fait mettre en bas « jamais ». Fait que le dos c'était marqué dimanche 28 août.
Soyez-y,
mesdames. Et un des plus beaux souvenirs, c'est Bertrand Hébert qui me l'a allumé. Bertrand, des fois, c'est comme la semaine passée quand il a marqué Work entrevue. va y parler tout à l'heure. Ouais. C'est sûr que la TNA me fournit un lutteur pour parler du pay-per-view. Bertrand, je parlerai pas de... C'est juste des affaires qu'il voudra pas, puis on va se couper les ponts, là, un moment donné, allume, là. Puis il reste encore à Bois-Noix, lui?
Oui.
Ah, oh, je comprends.
Ouais, c'est à longue distance, tantôt, quand j'essaie d'appeler, mais Pat Laprade l'avait appelé, puis
ça doit être dans le 429.
450.
C'est ça, 450-429?
429, ouais.
Hein? Hein? Ouais. Je suis bon, hein?
T'es le Durant.
Il a sorti de quoi que j'ai montré à Patricia Molloy, je sais pas si tu l'as vu, sur son Facebook, l'attrapé de Jake the Snake Roberts à Balma. T'as pas vu ça? Va sur le Facebook, allez sur le Facebook de Bertrand Hébert.
OK.
Et vous descendez un peu, vous allez le voir. Écoutez, on avait fait...
Il pourrait nous le mettre sur notre page Facebook, Bertrand. Fais donc ça, fais-nous un c'est, share.
Et si ma mémoire est bonne, c'est autour de 1988. J'étais né, oui, parce que j'étais là.
Bertrand nous confirme que c'est 88.
Ouais, cool, cool. Et le Canadien de Montréal, avec Tom Lapointe, faisait une tournée de matchs de balle.
Okay.
Carbonneau, Richer, puis en tout cas, c'était très, très populaire. Puis partout où ils allaient, c'était big. Au parc du Charme de Sainte-Thérèse, moi je côtoyais Tom Lapointe parce que j'étais à C'est quoi. Lui, mm-hmm. Il était à CKVL, C'est quoi aussi. Fait que et on décide d'organiser la WWF contre le Canadien de Montréal.
Okay.
Et écoute, quand même, si tu regardes les noms de, c'est sûr que j'avais une couple de joueurs qui avaient pas rapport, mais j'avais quand même.
Mais Jacques Rougeau.
Dino Bravo. Gino Brito. Rick Martel.
Ben, j'ai la photo ici.
Attends un petit peu.
Parce que je regarde le look des fils. C'est vraiment vieux comme photo. Hein?
Tu prends Jacques Raymond.
Ouais.
Gino. Dino. Rick, moi, on était déjà 6 de la
WWF
au Québec, là. Mm-hmm. On a rajouté à ça Jim Duggan, 7, et Jake the Snake, 8. C'est quand même 8 personnes qui touchaient à la WWF, c'est un terrain de balle, c'était quelque chose. Et, tu sais, des fois, tu rappelles quand que Sly a attrapé, il a dit au gars, frappe-moi dans la balle dans le gant, puis ouais. Est arrivé. Mais écoute, allez voir ça. Je suppose que Bertrand trouvait ça. Mais puis tu me vois arriver un des premiers qui va féliciter Jake. Il avait plu toute la journée jusqu'à peu près peut-être 16 heures.
Attends, Marc.
Il l'a posté sur le site web.
Ah, oui?
On peut le voir, là, Jake cool. The Snakes.
Cool. Et là, Jake, il y a un ballon frappé. Il est au champ mm-hmm. ou à l'entrechamp. En tout cas, d'après moi, il est dans le champ. Et là, les pieds partent, ils tombent. Là, il est sur le dos, là, dans l'eau, dans le bout. Il met son gant, clink, la balle tombe dans le gant.
Wow.
Écoute, t'aurais voulu stager ça, là. Tu sais, puis la lutte, on s'entend. Et bingo, c'était magique. Et le deuxième qu'il a mis, c'est...
Jake,
hein?
Il l'a mis, il vient de le mettre, ben lui que tu vas parler. Là,
OK, Jake, Jim Duggan. Qui frappe avec son 2x4. Fait que c'était... Et je me souviens, parce que ce qui m'avait assommé... C'était la popularité. On avait battu le Canadien en popularité, là. La foule était pour l'équipe de la WWF. T'imagines battre en popularité le Canadien, c'est mm-hmm. quelque chose, là. Puis c'était incroyable. Puis il y avait plus, là, comme je te dis, là, on pensait d'annuler le match. Puis c'était plein. C'était génial.
Patrick? Bertrand pourra peut-être nous corriger tantôt. Je pense qu'il était présent au match et c'est pour ça qu'il y a des photos du match. Si je me trompe pas.
Ce qui monte, c'est la télé. C'est le match qui était diffusé à TV9
ouais, TVSQ dans le temps, l'ancêtre de RDS. Et il y a aussi ton chandail de Dino Bravo, c'était le 28 août 1988. Dino Bravo contre Randy Macho Man Savage. 15 000 personnes au forum à ce moment-là.
Wow.
Y avait-tu gagné? Parce que moi, j'ai fait mettre jamais sur le t-shirt.
Ben, il a pas gagné le titre. Ou s'il a gagné, ça a été une disqualification.
Ouais, count out, possiblement. Marc, c'est fun que tu rapportes l'histoire de balle parce qu'on a vraiment eu une très belle expérience cet été au terrain de balle de Oka. C'était à Oka cet été qu'on nous étions l'équipe de la TOW. On a quand même joué contre quoi? 15 personnes en même temps? Ben, je veux dire, en même temps, l'autre équipe, il y avait quoi, une quinzaine de personnes? Ouais. Puis c'était une levée de fonds qu'on faisait également.
Oui, c'était une personne qui a eu un accident de motoneige l'année passée, qui c'était la nièce de ma copine du temps.
Okay.
Et fallait qu'elle refasse toute la maison parce qu'elle pouvait plus avoir accès. Et on a fait une journée bénéfice, poteau avec le boombox.
Il y avait eu qui? Il y avait eu moi, toi.
Non, mais en premier.
Ben, parce que c'est moi l'animateur du show, okay. Donc je me priorise.
Il y avait Sly.
Sylvain Grenier.
The Great Great One.
The Great Great One Prophet. Il y a eu Dronix, Sexy Eddie. Handsome GF.
Tout un joueur de balle.
Un très bon joueur de balle. On a eu Boogly.
Oui.
On a eu un gars d'Ontario que je me rappelle plus de son nom.
Ah, il a une belle shape, il est fin.
Jake. Ça, Jake, non. Je me rappelle pas. J'ai un blanc.
Moi aussi.
On était sept.
En tout cas, c'était.
Bref, en tout cas, Handsome GF qui a fait son sportif, il y avait le look, hein, les pantalons, les spikes, les bas blancs ou les bas noirs, je me rappelle plus. Deux circuits, Sylvain Grenier qui a fait sa vedette avec son chihuahua.
Ouais, puis il a frappé à la balle loin. Il
ça a l'air qu'elle cherche encore.
Il est encore dans les airs.
Il est encore dans les airs, ouais.
Et puis, Drew Onyx qui est pas vraiment bon.
Non, c'est pas un sportif, c'est plus un sportif de salon, mais quand même, c'était une belle expérience, puis j'espère qu'on la répétera cet été. Ça serait le fun de faire un game de balle avant un gala de lutte. Ou,
ouais.
Ça serait des bons plans. Souvenir. Toi, Pat, t'as-tu apporté un souvenir?
Ben,
ou
sa chemise.
J'ai pas apporté de souvenir parce que, je te dirais, mes plus beaux souvenirs sont dans ma tête présentement.
Bon. Oh, moi, je dis un souvenir matériel.
Je peux te relire ton message texte. Ça disait aucunement un souvenir matériel. Ça disait souvenir de lutte.
C'est ça.
Alors, ceci dit, et comme je fais toujours rapport des autres, mes souvenirs personnels.
Ah, voilà,
personnels. À la pause, y a pas
non,
de problème.
Vas-y, on t'écoute.
Je te dirais que depuis que j'ai commencé à travailler sur le livre, les entrevues que j'ai faites avec d'anciens lutteurs, combien d'anciennes personnalités de la lutte, c'est vraiment des souvenirs qui, dans 20 ans, tu sais, que moi et Bertrand, on vende une copie du livre ou 10 000, c'est pas ça, mais c'est vraiment les souvenirs que j'ai eu à rencontrer ces gens-là. C'est des gens qui, encore aujourd'hui, là, regarde, j'ai parlé à Gino Brito, tu sais, un peu comme Marc a parlé à Rick Martel, tantôt Rick aussi est une personne qui est devenue plus près, tu sais, quelqu'un avec qui, tu sais, on va se donner des nouvelles une fois de temps en temps. Raymond Rougeau aussi, Gino, Paul Leduc, Paul Vachon. C'est vraiment des expériences incroyables et toutes des gens que je connaissais soit de nom, que j'avais vu lutter quand j'étais plus jeune et que je me disais, tu sais, des fois, j'en reviens pas encore que je vais m'asseoir à côté de Gino, qu'on va prendre une bière ensemble, qu'on va parler, mm-hmm. là. Je me rappelle encore d'avoir 8 ans et de demander un autographe au forum. Tu sais, c'est quelque chose qui est spécial. Quelque chose qui va me rester en mémoire pendant longtemps. Quand Gino Brito trouve, par exemple, une petite revue de lutte qui date des années 60, puis que sa femme lui dit « Hey, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On la jette. » Puis que Gino lui répond « Non, on va garder ça pour Patrick. » C'est comme « OK. »
Excuse-moi, t'es dans une vidéo que j'ai vue aujourd'hui sur Facebook à Infoman. Il y avait Jean-René Dufort puis MC Gilles. Puis t'es là avec Darko.
Oui, ça avait été tourné au Centre Bell. T'étais
gros, ça se peut-tu, cette année-là?
J'étais assez enveloppé. Et je me souviens que j'avais coté une promo sur Darko en disant que c'était le futur de la lutte,
ouais.
Et tout ça.
C'est le plus gros lutteur au Québec.
J'étais de un, ivre, et j'étais de deux. Bon, déjà, j'ai pas de gêne, ivre. Il y a une caméra devant moi, c'est comme je suis dans mon élément. Et vraiment, là, je me souviens de ça. Et le monde live riait, mais riait tellement de m'entendre. Et ça fait long. Écoute, je me souviens même pas si je l'ai vu, cette promo-là, par la suite.
On te l'enverra sur ton Facebook.
Ah, ça serait vraiment super, c'est... ouais. Ça, mais tu sais, le Centre Bell, ça aussi, là, les de 2002, là, les événements télévisés que la WWE nous a donné, moi puis mes compères, Philippe Leclerc, Claude Tousignan, Olivier Charbonneau, on a fait, on les a presque tout fait, bon, on les a tout fait, en fait, et c'est, ça a été des événements toujours incroyables, c'était vraiment, et durant cette période-là aussi, on allait même, bon, ça fait peut-être un petit peu plus Marc, mais tu m'as traité de Marc en début d'émission, alors je vais l'assumer. dans ces années-là aussi, on allait même à l'aéroport et on allait prendre des photos avec les vedettes de la WWE. On avait un contact que tu connais bien, Marc, qui s'appelait Réal Pigeon, qui nous donnait les heures de vol des gars. Et écoute, là, j'ai des photos avec à peu près toutes les vedettes, incluant The Rock, Kevin Nash, Shawn Michaels, Stephanie McMahon. Triple H lui a jamais voulu, mais bon.
Mais ça aussi, c'est d'autres beaux souvenirs. Une parenthèse, quand tu approchais les lutteurs pour un autographe, est-ce qu'ils étaient accessibles ou ils t'en viraient?
On les approchait pour des photos, je te dirais, plus que des autographes à ce moment-là. Ça dépendait. Triple H, lui, c'était non catégorique. Ça, c'est quand il te répondait non. Des fois, il faisait juste pas te répondre. Stéphanie, qui était avec à ce moment-là, était beaucoup plus gentille. Elle prenait le temps de prendre des photos. Je me souviens très bien qu'à un moment donné, mon cher ami Claude avait de la misère à prendre la photo. Et là, c'était long. Et là, Triple H, qui en mettant les bagages en valise, a dit à Stéphanie, « Hurry up, Steph, hurry up! » Puis là, il était vraiment en tabarnouche. Puis Stéphanie était là, tu sais, toute gentille, puis ben, tu sais, j'ai même pris une photo avec Vince McMahon aussi dans ces années-là, cool. qui était vraiment cool. Moi et JF Kelly aussi étaient là cette journée-là, donc c'était vraiment, là, ça aussi, ça a été des souvenirs plus matériels peut-être, mais l'histoire derrière, tu sais, me reste, je me souviens, tu sais, bon, où c'était, puis ça, c'est des souvenirs que je vais avoir aussi toute ma vie.
Marc, je viens d'avoir un flash, il y a eu une histoire entre Jean-René Dufort et PCO. Est-ce que ça a abouti, ça, cette histoire-là? Comment que ça a commencé, au juste?
Seigneur, j'aimerais ça pouvoir te le dire. À un moment donné, comment ça a commencé? Wow!
Parce que j'ai vu une séquence
on
de l'émission
RDS. On a fait plusieurs,
RDS,
nous autres, où on y a répondu. Jean-René Dufort, s'était moqué de PCO, on lui avait répondu. Par la suite, il y avait une autre réponse. On a joué ensemble un peu. C'était vraiment, j'ai tout ça sur DVD. Et on voulait l'impliquer. On aurait bien aimé ça, l'impliquer pour qu'il vienne faire un run-in ou quelque chose, s'arrêter drôle. Mm-hmm. Et puis, jamais répondu.
C'est lui qui a pas répondu à l'invitation.
Ouais, pas répondu au courriel, rien, là.
Okay.
Mais ça a été le fun. Il est même venu porter à RDS. Il est encore sur le bureau de notre ex-réalisatrice Nathalie. RIP, PCO, une pierre tombale. Fait que, non, ça, c'est vrai, ça avait été cute, ça avait été le fun, c'est un bon flash.
Ben, c'est ça, c'est le vidéo que... Ah, tu vois, c'est qui, ça?
C'est Bertrand Hébert.
Bertrand, avec
dire,
qui?
Pat, One Up on Pat. On voit sur le site de... sur le Facebook, là, de la TOW, une photo de Bertrand Hébert avec Triple H.
Ah, Triple H, qui était dans son jeune âge, hein?
Ouais.
Bertrand aussi, il avait l'air... C'est quoi son chandail?
Ils viennent de m'envoyer le même message texte.
Donc, on va s'arrêter et on parle de Bertrand Hébert. On va l'appeler, donc au retour, on parle à Bertrand Hébert. Vous écoutez l'édition Souvenir du TOW Radio Show. On se remémore des très bons et des moins bons souvenirs.
Avec notre doyen Marc Blondin.
Nostalgie, TOW Radio Show.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show, en compagnie de Patrice Valtet et Marc Blondin. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et de l'extérieur sans frais, 1-866-895-3142.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Ici DJ Mike Charlebois. Je vous invite à ma soirée karaoké du dimanche soir à la brasserie 4040, coin Jean Talon et Pinneuf à Montréal. La soirée débute à 22h et à minuit, nous diffusons à la radio un concept unique en Amérique du Nord. Venez chanter à la radio karaoké tous les dimanches. Pour plus de détails, 514-926-7500.
Monster Abyss. Happy holidays from Impact Wrestling, and you're listening to TOW Radio.
Come on,
No, it's called the Hoobie Wear.
Honky Tonk Man, Honky Tonk Man.
So,
just a Honky Tonk Man.
Il y a Tolo qui serait en extase présentement.
Je veux vous dire une affaire comme ça. On parle de souvenirs. J'ai tellement chialé ma famille, mes amis, lorsque j'écoutais la lutte. Je me rappelle que quand il avait formé l'équipe avec Greg the Hammer Valentine, ça s'appelait Rhythm and Blues. Et ouais. Puis, il faisait semblant d'avoir sorti un micro-sillon. J'avais été chez le disquaire, dans le centre d'achat Chibougamau. Il a tellement cherché le monsieur, on l'a jamais trouvé. Donc, je m'étais fait avoir.
C'est excellent.
Oui, c'est vrai. Écoute, pour... moi, mon père m'a dit, là, si tu connaîtrais tes devoirs autant que tu connais ta lutte, tu pèterais des scores. Salut Bertrand.
Salut.
Ça va?
Oui.
Est-ce que t'as embarqué avec nous dans nos souvenirs?
Oui, oui, oui.
Ben, il les a déclenchés.
C'est de ta faute, ça.
Oui, oui, j'en ai des tonnes, des souvenirs. Là.
Des tonnes de copies.
Oui.
Vas-y.
Premièrement, Bertrand, ouais. Je voulais te dire, je suis surpris qu'il y ait des lignes téléphoniques à Beauharnois.
Ah, ben, c'est surprenant.
Moi, j'ai toujours appelé ça le village fantôme quand je passais là.
On a même un Tim Horton à cette heure.
Ben, arrête-tu, me niaise, là.
Ah, je te jure.
Ah oui, on est 17 à Blainville.
Ah oui, c'est ça. On s'en vient tranquille.
Là, c'est quoi tu voulais dire la semaine passée quand tu as marqué Work Interview?
Ben, c'est parce que c'est juste la façon que c'est que généralement, je suis habitué de voir des entrevues où ce que les gars, même sur leur Twitter, les gars racontent pas les histoires de la télé, surtout la télé de TNA, souvent, là. Fait que j'étais surpris un peu là, de voir vraiment comment c'était vraiment là, uniquement centré sur l'histoire de la télévision. Comme
c'était pas uniquement centré là-dessus, là, on ouais, a parlé ben, de...
En termes de business, là.
Oui, exact. Mais tu as compris tantôt ce que j'ai voulu dire au début?
Je comprends l'idée derrière, là, mais malheureusement, parfois, le produit de TNA me laisse de glace et je passe l'entrevue de TNA, fait que la semaine passée, je suis resté surpris.
Ah, bon, ben, OK, mais ça, tu vois, c'est quelque chose que je savais pas, que le produit de TNA te restait de glace.
Ben, tant que c'est Vince Rousseau qui a ses doigts dans le booking...
T'es encore lui, là?
Oui.
Ouais.
Ah, il est là.
Bertrand, je t'ai invité à l'émission aujourd'hui parce que t'es quand même assez impliqué dans le monde de la lutte au Québec, vu que c'était le 25e anniversaire de la NCW. Comment tu t'es ramassé à être impliqué dans le monde de la lutte?
Ah mon Dieu, c'est une longue histoire, mais
ben, vas-y.
Ça, rapidement, donc j'ai toujours aimé la lutte. D'ailleurs, ça fait 30 ans en décembre cette année que je suis la lutte. Et après ça, j'ai été correspondant pour Pro Wrestling Illustrated pour le Québec dans le temps. Donc, je fournissais les rangs. J'allais au forum, puis j'allais au Poids Sauvé, puis ailleurs, puis je donnais les résultats. De là, j'ai connu François Poirier, qui est Frank Blues de la NCW, qui m'a invité à venir arbitrer parce qu'il cherchait des arbitres, parce que c'est toujours difficile de trouver des arbitres. Et à partir de là, ben je me suis impliqué à fond au sein de la NCW durant 8 ans là, comme arbitre, booker, gérant et promoteur. Donc c'est un peu comme ça là, que c'est arrivé là, en quelques mots. Là. Donc j'ai été impliqué là longtemps, j'ai travaillé après ça dans plein d'endroits, dont la TOW. C'est ça, là. Donc c'est ma passion. Là, comme
t'as engagé Bertrand, Marc? Pour la TOW?
Oui, ouais, il a travaillé dans le backstage. C'est la première fois que je te rencontrais, hein?
Oui, oui, oui.
Ouais, on ne s'était jamais rencontrés avant. Il y avait Jen qui était là aussi. Puis,
C'est quel TOW que tu as fait tes débuts, Bertrand?
C'est celui avec Jim Duggan, là. Le numéro m'échappe.
Le numéro 6?
Oui.
Et moi, ça a été mes débuts, moi, la TOW. Mon premier match que j'ai arbitré pour vous, c'est justement ça. Jim Duggan contre Handsome GF.
Une autre défaite de GF.
C'était moi qui bookais le show et je pouvais pas être là malheureusement. Parce
t'avais un mariage.
C'était les 60 ans de ma chère
on
mère.
On avait changé la date.
Et vous aviez changé la date, c'est donc vrai. Je pouvais plus être là. Et c'est j'avais demandé là, à Bertrand et à Jen d'être au poste pour me remplacer, et par la suite TOW7 avec Shelton Benjamin, Hurricane et tout ça, Kevin
TOW Steen. Extrême aussi.
On avait notre équipe, c'était moi, Bertrand, Jen et Stéphane Brouillard qui, et à ce jour, on parlait de souvenirs encore, là. Mm-hmm. Un souvenir comme on me rappelait longtemps, c'était un des meilleurs shows à Bertrand, je pense que c'était ouais. Un des bons shows qu'on a booké, ça.
Moi aussi, je me rappelle de TOW7. Ah, pardon. Oui, qu'on s'aimait pas ce jour-là.
Un mal de tête.
Un mal de tête, exactement. Bertrand, vu que ça fait 30 ans que t'écoutes la lutte, tu dois avoir une panoplie de souvenirs, étant donné qu'aujourd'hui, on a sorti tes souvenirs matériels. Toi, ton souvenir matériel qui te tient le plus à cœur, c'est quoi?
Je vous dirais que c'est tout récent, là, parce que ça m'a été donné, puis là, j'ai pas grand-chose qu'il sache, mais bon, tu me parles de souvenirs matériels, là. Il y en a qui savent, là, j'ai aidé le Comic-Con de Montréal à booker Ricky Martel pour faire une apparition au Comic-Con de Montréal en septembre dernier. Puis par la suite, Rick, il y avait des questions, des affaires à se voir, puis tout, puis il m'a donné quelque chose de tout simplement incroyable pour moi comme amateur de lutte, là. Il m'a donné un briquet.
Un briquet?
Oui, c'est un briquet qui avait été donné par Fritz Von Erich. Quand Rick a quitté le territoire de Fritz Von Erich, Fritz Von Erich a donné ça à Rick, puis il a dit, tu vas avoir du succès dans la lutte. Puis Fritz Von Erich, ces briquets-là, ils étaient marqués, là, c'était marqué « Taken by force by Fritz Von Erich ». Fait que, puis il me l'a donné en cadeau, là, de gratitude, tout ça, là. Donc, moi, Ricky Martel, ça a été longtemps mon, et encore mon idole de lutte, là, donc... qu'il prenne la peine de prendre ce souvenir-là dans ses choses à lui, puis de me le donner pour me remercier, puis me dire comment il avait apprécié sa fin de semaine du Comic-Con. C'est comme... j'en parle, puis les frissons me passent sur le corps, là.
Bertrand, j'avais peur que tu me dises que tu avais l'autre botte, là, tu sais. On
non,
aurait pu faire une équipe.
Botte, mais je la prendrais, par exemple.
Ah, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que tu serais prêt à échanger ton briquet contre la botte, à Marc?
Mais, écoute, tu parles de Rick Martel. Faut que je te conte cette anecdote-là. À un moment donné, à la WCW, on a travaillé ensemble à la télé. Écoute, on a fait des promos pour les pay-per-views.